en Europe. Bon, évidemment, au mois de mars, donc déjà, et on a été obligé de fermer l'école. Bon, donc je dirais certainement ça avec des voies d'études. Et puis au niveau de l'école, on ne savait pas comment la situation allait évoluer. Donc la première réaction, c'était de dire voilà, et pendant 2 semaines. Donc au fait, on était supposé reprendre les cours. Et après, donc on a eu d'abord, donc quand c'est aux États-Unis, c'est arrivé, donc il y a eu des cas de maladie, on a dit bon, on attend pendant 2 semaines. Et puis après 2 semaines, donc évidemment, on ne pouvait pas ouvrir. Donc c'est dit voilà, et on se met, on a la première réaction, ce qu'on a fait, c'était préparer les enseignants et les enseignants en ligne, parce que tous n'étaient pas préparés en utilisant le Zoom. Et puis renvoyer les étudiants qui étaient déjà à l'école chez eux en famille, et ça aussi c'était pas facile. Donc je crois qu'il y a même une cinquantaine d'étudiants qui sont restés à l'école parce qu'ils pouvaient pas aller en famille, ceux qui vivaient pas qui n'ont pas leur famille aux États-Unis. Et donc on a dit voilà, on doit prendre soin de ces étudiants qui restent. Mais c'est une situation évidemment qu'on partout d'ailleurs n'était pas facile.
Et quand vous parlez aux étudiants, à vos collègues, quel est le feedback qu'ils vous donnent sur tout cela? Est-ce qu'ils étaient préparés? Est-ce que la transition s'est bien passée pour tout le monde?
Non, bon, disons, certains d'une façon ou d'une autre, avaient utilisé l'enseignement en ligne, mais je dirais, et pour les étudiants et pour les enseignants, les personnes n'étaient préparées. Et surtout des conditions dans lesquelles il y a cet enseignement en ligne, c'est-à-dire, par exemple, pour l'enseignant, ça signifie, vous avez vos enfants, vous avez votre famille, etc. C'est dans ces conditions. Et pour les étudiants, surtout, c'était beaucoup plus difficile parce que tous n'ont pas des équipements, même au niveau des États-Unis, des familles, des enfants qui n'ont pas de propre ordinateur, etc. Donc, ça a été, je dirais, les défis, c'était beaucoup plus du côté des étudiants. Bon, évidemment, il y a certains, et dans une des réunions qu'on a eues, réunion des professeurs, mais évidemment aussi en ligne, il y a un qui a posé la question, il dit, mais enfin, si les étudiants souhaitaient continuer dans ce système, c'est-à-dire rester en famille et avoir l'enseignement en ligne, même après le coronavirus. Donc, mais évidemment, on pense que c'est pas pour demain, mais
On pourra
on
en
devrait
discuter
se
plus tard.
préparer à ça dans l'avenir, je pense.
D'accord. Alors, Mohamed Mustapha Diagne, si je comprends bien, au Sénégal, il y a en fait l'enseignement à distance par le biais de la télévision, mais également par Internet, surtout avec certaines institutions privées. Est-ce qu'il y a moyen d'évaluer les élèves pendant cette période? Comment est-ce que ça se passe?
Il faut relever qu'au Sénégal, ce n'est pas avec le Covid-19 que nous avons commencé l'enseignement à distance. Parce que nous avons eu des difficultés particulières en termes de déficit d'enseignants. Surtout sur certaines disciplines comme la philosophie, les mathématiques, l'espagnol et certaines disciplines scientifiques. Donc, il fallait pallier à cela. Nous avons depuis 4 ans développé ce qu'on appelle des ressources numériques, avec des cours qui sont filmés, qui sont mis en ligne, ou bien qui sont embarqués dans des tablettes que le ministère offre à des élèves pour pouvoir suivre de quel cours. Nous avons également des difficultés avec la formation des enseignants. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous aventurer dans des formations présentielles à longue durée. Donc, et il y a beaucoup d'enseignants qui réclament des formations parce qu'ils veulent se professionnaliser, mais aussi ils veulent avancer dans leur carrière. C'était une revendication tout à fait légitime. C'est pourquoi nous utilisons ici ce qu'on appelle la FAD ou formation à distance. Donc, il n'y a que 2 regroupements et tout le reste, donc des enseignements, se fait à travers des plateformes qui sont au niveau du ministère, des plateformes comme Simen, des plateformes également comme celle de IFAEL, mais aussi de l'ERAFAT avec Exera.sn. Maintenant, il y a une situation particulière. Aujourd'hui, 3 500 000 élèves du moyen secondaire, du préscolaire et du primaire sont confinés. Et du primaire sont confinés dans les maisons. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'ils désapprennent.
Alors, comment se fasse l'évaluation pour cette période?
Non, il n'y aura pas d'évaluation. Ce que nous contrôlons, ce que nous évaluons, c'est voici est-ce que les enfants consultent le site, si est-ce que les enfants regardent la télévision, notre canal. Il y a aussi d'autres télévisions qui développent des cours, indépendamment du canal éducation qui appartient. Donc, ce que nous évaluons, c'est cela. C'est-à-dire que l'ambiance d'enseignement, apprentissage qui était dans les salles de classe est transférée dans ce qu'on appelle.
Est-ce que vous avez, M. Diagne, est-ce que vous avez les moyens de savoir si les étudiants, les élèves prennent sérieusement ces cours? Est-ce qu'ils suivent ou bien?
Par exemple, les derniers jours, il y a eu 6 000 visites. Maintenant, ça grandit. Parfois, c'est 10 000, parfois, c'est 15 000 visites. C'est clair. Maintenant, le canal TNT vient de démarrer. On a des difficultés parce que TNT n'est pas dans tout le Sénégal. Donc, nous sommes en train de développer d'autres stratégies pour mettre peut-être dans d'autres boucles de canal pour qu'il y ait une diffusion large sur l'ensemble du territoire national.
Alors, Monsieur Karayega, justement dans ce même ordre d'idée, est-ce que le risque, ce n'est pas de voir les élèves, les étudiants prendre un pas à la légère cette méthode d'enseignement à distance, pensant que bon, ils sont pas en classe? Quelle est votre remarque?
Je vais parler plutôt de mon point de vue ou de mon expérience. C'est beaucoup puissant. Par exemple, pour mes cours, c'est assez simple de suivre, par exemple, d'évaluer les étudiants en termes de performance, ce qu'ils font en classe. Bon, évidemment, les méthodes traditionnelles d'évaluation changent un tout petit peu parce que c'est à distance. Donc, je mets l'accent, par exemple, sur les papiers qu'ils doivent écrire et aussi des présentations qu'ils font. Et troisièmement, et pour moi ça c'est très important, c'est aussi la participation. Donc, ils ont des devoirs à faire. Et puis, quand je suis avec eux, disons, avec eux, c'est-à-dire en ligne, évidemment, et je peux voir chaque étudiant et je peux me faire une idée de chaque étudiant, c'est lui ou celle qui n'a pas pu participer en classe. Donc, ce sont des méthodes qui permettent de faire. Cependant, ce qu'il faudrait acheter de façon générale, c'est qu'au niveau de l'école, par exemple, on a constaté qu'il y a des étudiants pratiquement qui ont abandonné les cours. Donc, mais c'est-à-dire, par exemple, des situations de famille, des rattrapes, ou d'autres, juste seulement ce changement est un peu difficile pour eux. Et donc, pour certains cours, par exemple, on a décidé, on a dit, voilà, si l'étude de professeur, bon, j'ai dans le cas de mon école, de mon université, si le professeur se rend compte qu'il sera très difficile de faire une évaluation, donc il peut changer le mode. Le système, donc, des données, des notes des étudiants.
Et vous, en tant qu'enseignant, vous préférez quelle méthode être en contact direct avec vos étudiants en classe ou ces cours à distance quelle est votre préférence?
Bon, je crois que dans l'immédiat, évidemment, et compte tenu surtout des situations des étudiants, des conditions, par exemple aux États-Unis, on a remarqué que des étudiants, des familles défavorisés, et beaucoup plus c'est la population noire, ce qu'on appelle les minorités, et donc ils ne sont pas dans des bonnes conditions, c'est-à-dire à l'école, ils ont mangé à l'école, il y a toute la technologie, ce qu'ils n'ont pas chez eux, mais aussi, pas seulement en termes d'équipement, mais aussi cadre familial, donc c'est que la famille offre, c'est une plan social, émotionnel, etc., psychologique. Donc à cela, je dirais, on a encore besoin de système traditionnel. Mais cependant, on devrait aussi reconnaître que dans l'avenir, ça, indépendamment de la maladie du virus, ça va changer. Autant que la façon dont nous utilisons les livres, n'est-ce pas? Et ça a été, on a été habitué à avoir le livre en papier, mais petit à petit, on a des livres électroniques. Donc, ça va venir. Ou peut-être, je crois, on aura un système à hybride, si vous voulez. Donc, on gardera le système traditionnel, mais aussi il y a des côtés très positifs dans l'enseignement en ligne qu'on ne devrait pas négliger. Il y en a beaucoup aussi. Donc, je crois que les deux systèmes devraient cohabiter et qu'on a besoin des deux.
D'accord. Et Mohamed Moustapha Diagne, qu'est-ce qui est prévu pour les élèves en classe d'examen au Sénégal?
Oui. Donc, ces élèves-là reprennent les cours à partir du 2 juin. Mais c'est très intéressant. L'enseignement à distance est très intéressant pour cette catégorie d'élèves. Puisque souvent, au Sénégal, nous sommes victimes des perturbations. Des grèves, donc des plans d'action des enseignants. Souvent, les classes d'examen, à l'extérieur, les enseignants peinent à terminer les programmes. Les contenus qui sont en ligne, qui sont disponibles, accessibles aux enfants, qui la plupart du temps ont des tablettes ou des smartphones, et peuvent directement accéder aux différents contenus, et peuvent être tutorés non seulement par leurs enseignants, mais aussi par leurs grands frères étudiants ou leurs sœurs, grandes sœurs étudiantes. Donc, pour moi, c'est extrêmement important de ce point de vue-là. Et il est clair, il est certain qu'on est obligé d'aller dans un enseignement à dire présentiel traditionnel, mais également à distance, avec donc les impôts qu'on connaît en termes
de... ce que disait M. Karayégué, essayer d'allier les deux. En fait, merci beaucoup. Nous avons quand même des réactions de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Je vous en lis juste deux. Nous avons Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui nous dit que l'enseignement à distance demande certains préalables, notamment une fourniture en électricité viable. Ensuite, il faut des ordinateurs et enfin, il manque à certains enfants en milieu rural une formation sur l'utilisation de l'informatique. Et puis Stankula au Gabon, il écrit « Malgré les difficultés de déploiement des infrastructures numériques, je suis tout à fait convaincu qu'il est possible de faire du téléenseignement en Afrique avec les infrastructures que nous avons actuellement. » Voilà donc quelques-unes des réactions de téléspectateurs de VOA Afrique. Merci de rester avec nous. Washington Forum revient après une courte pause. De Washington Forum. Mon école à la maison est un projet mis en place en Côte d'Ivoire par le gouvernement pour assurer la continuité dans la formation des élèves et étudiants. Une initiative donc qui a été suivie par des privés un peu partout, comme nous le dit dans ce reportage Thierry Kaoré.
Ces cours sont accessibles à la télévision, par SMS ou en ligne à travers les réseaux sociaux. Pour accompagner l'initiative du ministère ivoirien de l'Éducation nationale, des professionnels de l'enseignement privé ainsi que certaines communes ont dû mettre la main à la pâte.
Ce sont des cours gratuits organisés par un collectif d'enseignants du privé de la commune du Pauvre et soutenus par le conseiller municipal, M. Bané Karamoko.
Assis dans leur salon, Kevin et Asiata suivent ces cours à la télévision et prennent des notes. Parfois, la compréhension y est, mais pas toujours.
Oui, j'ai bien compris le cours. Mais comme c'est à la télé, je n'ai pas pu poser des questions. Le professeur nous a montré comment calculer les capacités du sol, mais il a été trop rapide, donc on n'a pas pu prendre tous les calculs.
Le ministère de l'Éducation nationale, qui veut assurer la continuité des cours, reconnaît les limites et promet d'améliorer.
Mais sur Facebook, nous avons un canal que nous utilisons, Éduc TV aussi, que le ministère a créé. Et très bientôt, nous allons créer une interaction entre justement les élèves et nous, de sorte que les enseignants pourront répondre à leurs questions.
L'accès à la télévision reste un luxe pour certains ménages à Abidjan. Les élèves préfèrent donc les plateformes en ligne qui expérimentent déjà l'interaction avec les enseignants.
Moi, personnellement, on n'a pas de télé chez moi. Mais avec les cours en ligne, vraiment, j'arrive à mieux suivre les cours. Et même quand tu ne comprends pas, tu peux même poser des questions au professeur. Tu réponds, vous posez même comme des amis. Voilà, c'est très intéressant. Tu réponds, quand tu ne comprends pas, il fait un vocabulaire, il fait une vidéo même pour t'envoyer.
Le programme, qui ne concerne pour l'instant que les élèves en classe d'examen, CM2, 3e et terminale, devrait prochainement s'étendre à toutes les autres classes.
Voilà, je rappelle nos invités à Dakar, Mohamed Mustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication du ministère sénégalais de l'éducation nationale, et ici en Pennsylvanie, Jean-Pierre Carayégué, professeur à Dickinson College. Voilà, Monsieur Diagne, au sortir de cette expérience, vous pensez que le Sénégal, les pays africains de façon générale, devraient aller vers une intégration plus poussée de l'enseignement à distance dans le cursus, dans le processus?
Oui, c'est une alternative, puisque nous avons rencontré beaucoup de difficultés avec des classes pléthoriques, mais également avec des difficultés de transport. Généralement, les enfants donc avec des familles socialement exposées ont des difficultés pour aller à l'école. Ensuite, difficultés également d'alimentation dans certaines écoles. Je pense que c'est un palliatif. Maintenant, pour les enseignants, on a avancé parce qu'il y a ce qu'on appelle les formations diplômantes. Là, c'est par la formation à distance que l'enseignant soit et évalué et donc reçoit, acquiert un diplôme professionnel et avance dans sa carrière. Donc, de ce point de vue-là, déjà, dans la formation des enseignants, nous avons avancé. Maintenant, il nous reste à travailler avec les élèves, d'autant plus que l'État du Sénégal, donc partout dans les écoles élémentaires, dans les collèges, installe ce qu'on appelle des salles informatiques pour initier les enfants donc à l'informatique, mais aussi pour les imprégner et les préparer au monde du numérique. C'est dire qu'au Sénégal, on a beaucoup avancé, donc avec également certaines sociétés de télécom qui accompagnent donc le ministère de l'Éducation nationale dans cette voie-là.
Alors là vous pensez plus aux élèves dans les zones urbaines. Qu'en est-il des zones rurales?
Là, il faut faire très attention. Hein. On peut être dans une zone urbaine, pas accéder à Internet parce que c'est tout le monde qui n'a pas, tout le monde n'a pas, tout élève n'a pas le téléphone adéquat. Mais également dans le monde rural, il y a beaucoup de villages dans lesquels il y a Internet, etc. Maintenant, évidemment, il y a toutes ces zones un peu non couvertes par Internet. Là, on est obligé encore de travailler sur support physique, de travailler en présentiel et demander à l'État de faire beaucoup plus de l'électricité, mais aussi pour apporter Internet. Parce que c'est une question d'équité, c'est une question également de justice pour mettre sur le pied d'égalité tous les professionnels.
D'accord. Alors, M. Carayégué, c'est vrai que le niveau peut-être n'est pas le même en termes d'accès aux technologies, d'accès à Internet, mais est-ce que l'Afrique peut apprendre quelque chose de l'expérience américaine en la matière?
Je ne pense pas que l'Afrique ait besoin d'apprendre qui que ce soit, mais donc les propres expériences africaines aussi enseignent, n'est-ce pas? Et je crois que, comme bien l'a dit, dans plusieurs pays africains, il y avait déjà cette expérience disons, d'usage, par exemple, de la technologie dans l'enseignement, et même dans des villages reculés. Un des pays que je connais le mieux, c'est aussi au Sénégal, mais un des pays que je connais le mieux, c'est le Rwanda, par exemple, où il y avait un programme de One Laptop Per Child. Et donc, même dans des régions reculées, les enfants avaient accès à cet appareil. Je pense que ça coûtait $100 à chaque enfant. Et cela, je crois que c'est vrai. Bon, on n'a pas le même niveau de développement en termes de technologie dans tous ces pays, dans nos pays africains ou ailleurs, mais je crois que c'est aussi un besoin et ça participe à notre développement et surtout nous sommes en train de parler d'éducation. Et donc c'est quelque chose dont on a besoin indépendamment de la situation actuelle. Et je crois que ça vient plutôt aider dans une situation assez complexe comme celle-ci, mais je crois qu'on aura toujours besoin de technologie. Bon, imaginez par exemple, si on est au Sénégal et qu'il y a quelqu'un qui soit au Mali et qui peut aider des étudiants à une formation quelconque sans être présent, ce sont des choses qui arriveraient et donc qui pourraient peut-être épanouir des collaborations. Donc je crois que c'est quelque chose, je ne dirais pas que c'est possible, que c'est maladie, mais l'usage de la technologie, je crois que c'est une nécessité d'une façon ou d'une autre. Et dans l'éducation aux États-Unis, évidemment aussi, pas pour enseigner d'autres pays, mais dans la propre expérience américaine aussi. Donc il y avait déjà des tentatives d'usage. Je crois de plus en plus, par exemple dans l'enseignement supérieur, une des questions qu'on pose à l'enseignant, c'est une des questions, c'est savoir est-ce qu'il est capable, quel type d'outil il a en termes de technologie pour ses enseignants.
C'est un des critères importants pour pouvoir enseigner, surtout à l'université, n'est-ce pas, de nos jours? Alors, M. Diagne, justement, on parlait de la formation des enseignants, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'est pas plus facile, justement, pour les gouvernements, le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, de penser à développer cette stratégie, vu que dans beaucoup de pays, il y a ce problème d'effectifs dans les classes. On a des classes où on a plus presque 100 étudiants, 100 élèves plutôt. C'est peut-être une solution.
Oui, le gouvernement l'a compris, parce que même au niveau de l'université et au niveau supérieur, il y a ce qu'on appelle l'université virtuelle. Ça a vraiment la compris avec les étudiants. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont envoyés, qui sont orientés dans les universités virtuelles et qui font tout leur cursus à distance. Donc, et qui terminent avec des licences, avec des masters. Vous avez également raison. Évidemment, nous sommes obligés d'aller vers le numérique du préscolaire au moyen secondaire. Maintenant, il y a beaucoup de pays également en Afrique, Côte d'Ivoire, Rwanda, Togo, Burkina Faso, qui s'y mettent. Parce que tout le monde a compris, on peut réduire le temps, on peut également gagner en ressources, parce que regrouper les élèves dans des salles de classe demande énormément de moyens, et pour l'État et pour les parents. Pour se pallier au déficit d'enseignants et aux classes dans cette classe de la banlieue, il y a 120 élèves dans une salle de classe, mais il y a un dispositif d'accompagnement à mettre en place.
D'accord. Monsieur Karayegué, ici aux États-Unis, les universités tiennent à leur prestige, hein, prestige de leurs institutions. Vous pensez qu'avec le développement de l'enseignement à distance, les mentalités vont changer? Certains pourraient penser que les programmes qui vont être dispensés ne seront pas de bonne qualité. Vous pensez que ça va changer la mentalité?
Bon, ce qui va changer peut-être, c'est la notion d'espace, c'est-à-dire école comme espace, ça pourrait changer, mais le prestige va demeurer et peut-être s'exprimer dans d'autres lieux. Alors le prestige serait, je prends des cours à telle université, à tel endroit. Mais je crois que plutôt, comme une des conséquences, par exemple, de l'enseignement à distance, c'est que les gens pourraient avoir des diplômes, mais sans appartenir nécessairement à une université atypique. Bon, on pourrait prendre des cours dans plusieurs pays et il y aura des systèmes d'évaluation. Des systèmes peut-être même autonomes pour évaluer. Vous pouvez avoir un diplôme, mais sans nécessairement que tous les cours se prennent dans une institution particulière. Déjà aux États-Unis, n'est-ce pas, vous avez ces grandes universités, mais quand on dit, par exemple, il y a tel professeur, par exemple, on dit, voilà, il y a Bill Gates, ou il y a, je ne sais pas, Chomsky, peu de gens vont savoir aux États-Unis, dirais-je, où est-ce qu'ils ont étudié. Ça importe peu par rapport à ce qu'ils font. En France, par exemple, c'est différent. Par exemple, il y a encore ce prestige de dire j'ai étudié, j'étais dans une grande école. Mais ici, c'est moins.
D'accord. Voilà. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités. Merci à nos télépartenaires et je remercie toute l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.